Montpellier, sur internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 15h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le flash local.
Bonjour à toutes et à tous dans l'actualité de ce samedi 2 août. Faute de repreneur, l'horlogerie Alexis Duguay, rue de la Loge à Montpellier, tirera définitivement le rideau de fer le jour où son propriétaire prendra sa retraite. Aucun entrepreneur n'a en effet racheté l'affaire, les clients potentiels ayant finalement abandonné les négociations faute d'argent ou de salariés à embaucher. Et pourtant, l'horlogerie dispose depuis 28 ans d'une clientèle fidèle, réunie autour de marques symboliques. Dans une interview accordée à nos confrères du Midi Libre, Alexis Duguay a exprimé ses regrets de voir s'effacer son activité. Le 10 septembre à 10h aura lieu l'ouverture du très attendu magasin Primark à l'Odysseum. Il faut dire que le chantier a connu des débuts difficiles en 2019. La crise du Covid et les redoutables retards de chantier ont reporté l'ouverture du magasin de prêt-à-porter à prix ultra cassé. Si l'ouverture était prévue avant 2022, les futurs clients ont dû patienter près de 4 ans. Primark n'est d'ailleurs pas la seule enseigne à s'implanter dans le centre commercial. La marque sera suivie de Quick et de Waffle Factory. Cette année, le musée Fabre fête ses 200 ans. Et qui mieux que le mythique musée du Louvre peut aider l'institution à souffler ses bougies? C'est ainsi que, tout à fait récemment, les deux musées ont officialisé un partenariat. Une amitié qui ne date pas d'hier, dépôts, prêts et échanges d'œuvres sont fréquents. Deux expositions communes sont prévues. Une première au cours de l'été 2027, elle portera sur les antiquités orientales. La seconde, plus symbolique, marquera la fin des travaux d'extension du musée Fabre en 2030. Lors d'une conférence de presse, Michael Delafosse, maire de Montpellier, n'a pas manqué de saluer le travail de Justine Trier, directrice du musée depuis 4 ans. À Nîmes et Bagnols-sur-Cèze, on a appris que deux agents de la protection judiciaire de la jeunesse ne verront pas renouveler leur contrat. Et ce, à un moment où trafic et violence impliquent de plus en plus de mineurs. La ville du Gard en est d'ailleurs venue à imposer un couvre-feu pour les moins de 18 ans. Ajoutons que la suppression de 3 postes d'éducateurs dans les quartiers prioritaires indigne les syndicats et qui, quant à eux, dénoncent l'abandon de la lutte contre le narcotrafic et la manipulation de la jeunesse. C'est la fin de ce Flash Info du samedi 2 août. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite un excellent week-end sur Radio Aviva.
C'est l'été sur Radio Aviva. C'est l'été sur Radio Aviva.
Au paradis de la chanson française.
Quand je suis arrivée, ils croyaient que j'étais originale, mais j'étais pas originale. J'étais un stéréotype de ces filles qui avaient des franges, des fossiles, et puis ils ressemblaient à des poupées, une sorte de pseudo, Gene Shrimpton un peu. Alors j'ai fait toute ma carrière avec cette chance d'avoir fait slogan, de tomber sur Serge, d'avoir resté en France. J'aurais fini peut-être dans la télévision. Il n'y a aucun cinéma anglais. Il y a tout ça, c'est... Ça s'est fini en 68 à peu près. Alors peut-être un peu de télé, le théâtre, j'aurais pas osé. Non, ça c'était une chance que ça soit français.
rappelle sage. Je pense que j'ai eu le meilleur de lui comme parole, parce que j'ai eu un côté de lui féminin, brisé, fragile, qui voulait bien me donner et garder pour lui les trucs costauds, sexuels, provoquants. Il avait besoin de ça aussi, de devenir Gainsbourg.
Quand tu dis ton désespoir, est-ce que tu serais d'accord que tu as une... que tu es un suicidaire optimiste? Parce que tu fais tout pour...
J'aime pas la colère des mots.
Non.
Suicidaire optimiste.
Parce que tu fais tout pour et je n'ai pas l'impression que tu crois que quelque chose va t'arriver. Quand les gens viennent, disons pourquoi ils boivent tant, pourquoi ils fument tant, est-ce que... Imagine que tu es suicidaire, je ne le crois pas. Peut-être j'ai tort.
Et j'aurais jamais le flingue. Parce qu'un jour, avec ça, je risque de me péter le... Donc j'aurais jamais le flingue.
Voilà. Il y a des somnifères.
Non, un somnifère, c'est pour les filles. C'est pas pour les mecs. Les mecs, c'est pas direct. J'ai eu des chantages au suicide, mais j'ai jamais eu de gonzesses. Elles sont toutes loupées. J'ai pas de mort sur ma conscience. Oui, il faut avoir eu des moments atroces dans sa vie pour... Les plaints et des déliés. Caresse et un coup de poing dans la gueule, ça c'est plein et délié.
Il y a quelques toiles qui restent de toi. Tu m'en avais donné une avec ta mise en scène déjà dessus parce que c'était une toile cassée en deux que j'ai toujours. Mais pourquoi tu as abandonné la peinture? Pourquoi tu as arrêté?
J'ai abandonné la peinture par l'acheter. J'y croyais pas. Alors que dans les ateliers, tout le monde me disait vous allez être un très grand peintre. Mais j'y croyais pas. J'avais pas de blé, j'étais faucheman. Mais j'avais une belle technique. C'est ce que disait Dine Delacroix, et moi je l'ai fait ça. Il faut savoir cerner, c'est-à-dire croquer un ouvrier tombant du toit, dans le temps qui met à tomber. C'est cruel, mais c'est ça.
Thank you.
qui est venu me voir à Paris, que j'avais connu au Gabon, quand j'ai tourné Équateur. Il m'a dit, monsieur Gainsbourg, vous avez tout compris à l'Afrique. C'est ça, cette longueur. Parce que ce sont les pailles avec Luster qui revient voir ce que va. Et moi, j'ai ajouté des timbales dans les fonds. C'est une noblesse. Ils arrivent de loin. Et moi, je suis sur le pont et je baisse la caméra. Et les gens à Cannes n'ont pas supporté ce plan. Alors, moi, je vais te dire ceci. Je vais au Louvre. Hein? J'arrive devant le Saint-Sébastien de Mantegna. Je regarde. Ou le de la Croix. Arrêt image. Je reste là-dessus un quart d'heure, médusé, sublime, et puis ça me rentre dans le cerveau par les yeux. Et alors, il y a un connard qui va me dire, il y a des longueurs, hein, sur le de la Croix. Alors, c'est inadmissible, ça. Inadmissible, j'ai pleuré sur,
mais je sais,
sur des critiques.
J'étais dans ma loge et je pensais comme c'est drôle, triste, que quelqu'un, on imagine, s'y armé contre des... qui a la partie féroce qui... qu'on croit bien pouvoir se protéger, était en larmes parce que tu as lu une critique de ton film qui était pénible. Et c'est une blessure. Pleurais par une blessure. Et c'était...
poignant au cœur.
Oui.
Et au cerveau.
Oui, je sais. Tu as tout.
Eh bien, quand on a tout, je vais me dire ma petite cocotte, quand on a tout, on n'a rien. D'où mon désespoir. Oui, je me plante parce que j'ai les harmonies, putain.
Au paradis de la chanson française.
Radio Aviva.
Radio Aviva.
Le partenaire de votre été.
to get your groove on.
I know that's right.
Week is over, Friday's at an end.
Uh-huh.
I can't wait for Saturday to begin. Yeah. Oh, I can't wait. Down on Saturday.
Till
the sun comes up in the morning.
Uh-huh.
It's the end of the week and I'm out on the street.
Ooh.
Trying to find something to get into.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
'Cause I got to get down.
Down.
I can't stay at home.
Uh-huh.
Got to get out and hear me some music.
That's right,
Saturday,
that's right.
Don't you know? Here I come. You work yourself so hard all week long. It's time that you get your groove on.
That's right.
Week is over, Friday's at an end. I can't wait for Saturday to begin. I can't wait. Getting down on Saturday, I can't wait. Getting down on Saturday. Saturday, I can't wait. Oh, getting down on Saturday, yeah. No. Getting down on Saturday.
Gradually.
Saturday, I can't wait. Get down. Yeah, come on. Yeah, come on.
C'est l'été sur Radio Aviva.
Aviva.
Post-it, un tube, un jour avec Charles Victor.
Aujourd'hui, le single Rock That Body du groupe de hip-hop californien Black Eyed Peas. Un tube paru le 15 janvier 2010 qui cartonne dans le monde. Morceau produit par le DJ David Guetta, issu de leur 5e album studio. Certifié disque de diamant en France et 4 fois disque de platine au Royaume-Uni.
Post-it, un tube, un jour, avec Charles Victor.
Rock your body.
Rock your body. Come on, rock, rock, yeah, yeah.
my super fly ladies, all of my super fly ladies, all of my super fly ladies. Yeah, you could be big bone, long as you feel like you own. You could be the model type, skinny with no appetite. Short stack, black or white, long as you do what you like. Body out of sight, body out of sight.
She does a two-step and a tongue drop. She does a cabbage patch and the bus stop. She like electro, she love hip-hop. She like the break game, she feel punk rock. She like samba and the mambo. She like the break dance and calypso.
Get a little crazy, get a little stupid. Get a little crazy, crazy, crazy.
Sera Viva avec Collectif Métissé.
Post-it, un tube, un jour, avec Charles Victor.
C'est l'été sur Viva.
subit en la désharmonie.
L'été sur Radio Aviva.
Aviva.
Radio Aviva, le Mac de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
Mardi 28 mai 2024, dans le cadre de l'anniversaire de la libération de Nîmes et plus largement de l'anniversaire de la libération nationale, l'AFMD, l'Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Comité du Gard, organisait une conférence en soirée au lycée Alphonse Daudet. Une conférence riche en témoignages d'un événement douloureux de l'histoire de Nîmes en 44, alors même que les Français rêvaient de la libération.
Oui, c'est ça. Et cette conférence ce soir s'inscrit dans un projet global pour lequel nous avons eu le label du 80e anniversaire.
Jean-Paul Bourré, président de l'AFMD Gard, au micro de Radio Aviva Nîmes.
Et c'est bien sûr la cérémonie ce soir, un hommage aux victimes des bombardements de Nîmes. Il y a 80 ans, il y avait eu 271 morts, 289 blessés, 8 disparus dans les bombardements américains, puisqu'ils visaient les installations allemandes pour les empêcher de pouvoir se mouvoir, puisqu'il préparait à cette époque-là le débarquement qui a eu lieu le 15 août en Provence et qui a permis d'asseoir la libération de la France en août 44.
Et d'ailleurs, ce soir, vous avez invité des témoins de l'histoire.
Oui, c'est ça, notamment Charles Puech, qui lui avait 12 ans à cette époque-là, et bien d'autres. Francine Caban a fait un excellent travail d'historienne pour aller à la rencontre de témoins. Il y avait déjà eu du travail de fait, hein, puisque en 2014, il y avait déjà eu des événements. Georges Maton et quelques autres historiennes nîmois avaient beaucoup travaillé. Le conseil départemental également a beaucoup travaillé, puisque il y a eu un fascicule qui reste complètement d'actualité, que nous utilisons d'ailleurs. Mais il est important aujourd'hui de se souvenir.
J'ai vécu ce bombardement à la veille de mes 13 ans. Je suis né en effet en juin 31. J'habitais avec mes parents au 11 bis rue Notre-Dame, dans un immeuble de 3 étages situé entre la rue Roussier et la place de l'Écluse, à proximité de l'avenue Carnot. Nous occupions un appartement au deuxième étage. Lorsque les sirènes ont retenti, nous n'avons pas réagi immédiatement, car de nombreuses fois, au cours des semaines précédentes, l'alerte avait été sonnée pour rien. C'est seulement quand nous avons entendu des explosions au lointain que mes parents ont décidé de descendre rapidement dans les caves qui avaient été aménagées en avant. Nous étions donc dans la cage d'escalier en train de descendre lorsque nous avons entendu une énorme explosion. Les vitres de l'étage ont volé en éclats et la lumière s'est obscurcie. Nous avons continué à descendre en tremblant jusqu'à la cave où nous avons passé toute la durée de l'alerte. Nous étions alors complètement prostrés et silencieux. Lorsque nous sommes sortis à la fin de l'alerte, nous étions enveloppés d'un nuage de poussière qui avait de la peine à se dissiper. Le lendemain matin, en bicyclette, nous avons rejoint la campagne et nous sommes restés jusqu'à la libération. J'ajoute qu'aucune cellule de soutien psychologique n'existait à l'époque pour assister les Nîmois durement éprouvés par de nombreux morts entre 250 et 300 des blessés, dans une ville qui, à l'époque, ne dépassait pas les 80 000 habitants. Cet événement a marqué ma première jeunesse et j'en garde un souvenir précis.
Vous aviez un nom à ce moment dont on va pouvoir évoquer la douloureuse histoire ce soir. Quel est votre nom, monsieur ?
Alors, mon nom, c'est Yves Minati. Et je suis né 30 rue Papin et ma famille y habitait au moment des bombardements qui ont effectivement dévasté toute la zone. Toute la zone du quartier rue Sully, rue Richelieu, tout le long de la gare de marchandises, la rue d'Uzès. La maternité, effectivement, qui était rue d'Uzès, où il y a eu une quarantaine de personnes qui sont mortes, avec bien entendu des médecins, des sages-femmes, etc.
Cet événement, il occupe une place particulière dans la mémoire des habitants du quartier.
Alors, non seulement il occupe une place particulière dans la mémoire de ceux qui ont été ou témoins ou comme moi victimes, puisqu'il se trouve que j'ai perdu ce jour-là ma grand-mère qui est morte sur le coup. J'ai perdu ma mère qui a été grièvement blessée, qui a été hospitalisée mais qui est morte quelque temps après. Et moi-même, elle m'avait mis sous ses jupes pour me protéger. Et j'ai été blessé, j'ai une cicatrice au genou à peu près de la taille d'une pièce de 20 centimes d'euro, qui est toujours présente. Donc, quand vous parlez de est-ce que ça occupe la mémoire, ça occupe plus que la mémoire en ce qui me concerne, puisque pendant très longtemps, j'ai pas pu aller au cinéma à cause de cette douleur au genou, qui effectivement me vrillait. Mais j'ai été rapidement, soigné. Et je m'en sors encore pas trop mal, puisqu'aujourd'hui j'ai 81 ans et j'arrive encore à marcher. Donc je suis quelque part, à votre choix, un rescapé selon certaines personnes, ou un survivant. C'est un peu le nom que m'a donné ma famille, parce que ma mère m'a mis sous ses jupes. Et donc, elle a eu la jambe arrachée, et moi, j'ai eu une simple blessure par le même éclat d'obus qui a tué ma mère.
Les bombardements sur Nîmes, le 27 mai 44, ce sont plus de 450 bombes qui firent 271 morts et 540 blessés. C'est cette mémoire que la FMD Comité du Gard honorait ce soir-là. Car 44 a eu deux facettes. La libération, bien sûr, mais encore des trains et encore des bombes.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant. mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
L'année 1944, elle a deux facettes, celle de la libération, mais celle de la poursuite des camps de concentration, puisqu'il y a eu le train fantôme que nous commémorerons en apposant une plaque à la gare de Saint-Césaire où il s'était arrêté en juillet-août 1944. Et puis, il y a eu 14 convois après la libération qui sont partis en Allemagne. La guerre n'était pas finie. Et il y avait encore les camps de concentration. Il faut se souvenir que Auschwitz a été libéré seulement le 27 janvier 1945 et qu'ensuite, jusqu'en mai 1945, les camps de concentration étaient libérés. Et que la reddition sans condition de l'Allemagne est arrivée que le 8 mai 45. Donc, l'année 44, elle a ceci à la fois de formidable, mais aussi, parmi les Français, oui, il y a eu la fête, mais il y avait des souffrances, on le voit bien, partout en France, il y a des cérémonies, il y a des festivités, mais chaque fois que j'entends des témoins, il y a cette double facette. À la fois, il y avait les restrictions, à la fois, il y avait la joie, mais il y avait les morts. Il y avait les morts, 6 millions de juifs, 60 millions de morts durant cette guerre. Il y a beaucoup de familles nîmoises qui ont été endeuillées. Et nous travaillons sur la biographie de tous les déportés gardois, justement pour préparer le 80e anniversaire de la libération des camps. Et il y a eu tout de même près de 1200 déportés dans le Gard. Et donc, il y a 150 communes concernées par cette déportation. Donc tout cela, 1944, a cette double facette. Et il y a ce que nous allons fêter et au travers d'une conférence en septembre 2024, c'est l'arrivée des troupes de l'âtre de Tassigny après le débarquement qui ont défilé dans Nîmes le 25 août. Et c'est aussi ça qui est important de souligner. Il y a eu cette conjonction entre la résistance, l'armée de libération, ne l'oublions pas, l'armée de libération, elle a permis de faire fuir les Allemands. Et on honore bien sûr l'armée de ce point de vue. Le 25 août, où on invite massivement à venir, chaque année, la ville de Nîmes organise une cérémonie au monument dédié à la résistance et à la déportation, monument d'ailleurs où il y a le nom des 1200 gardois déportés depuis 2021, nous l'avons inauguré. Et ça sera bien sûr une célébration assez particulière, puisque l'armée va intervenir pour rappeler tout ce qu'a fait l'armée de libération, parce qu'il y a eu l'armée qui s'est écroulée en 42, certes, mais il y a eu l'armée de libération à l'appel du général de Gaulle du 18 juin 40, et ensuite la conjonction avec la résistance. Et c'est tout cela que nous voulons honorer au travers de notre programme de 80e anniversaire.
Cette année de célébration des 80 ans de la libération incarne aussi le caractère essentiel du travail mémoriel. Francine Cabanne, historienne et auteure de cette conférence, souligne l'indispensabilité de la transmission de la mémoire.
Alors, bien sûr, ça reste à mener, c'est même impératif. Nous sommes dans un lycée, mais vous verrez qu'il y a peut-être pas beaucoup de jeunes ce soir qui viennent, parce que justement la transmission, je crois, manque en ce moment dans notre pays, transmission intergénérationnelle. Les générations d'autrefois ne racontent pas ou pas assez ce qu'elles ont vécu et ce qui serait peut-être important pour les jeunes, pour se construire aussi une opinion de ce que peut être le monde de demain. Donc on est complètement dans cette dynamique-là, dans notre association, qui est celle de la transmission et la transmission intergénérationnelle. Donc, à l'avenir, on va essayer de faire que ce soit des jeunes qui aillent enregistrer, rencontrer des témoins pour que justement ils soient au contact de l'histoire vivante.
Francine Cabanne a recueilli la parole de plusieurs témoins. Gérard Latier en fait partie. Peintre et conteur nîmois, il a couché sur toile l'horreur de cet événement qui lui a enlevé son père. C'est avec son témoignage que nous clôturons le magazine consacré au souvenir des 80 ans du bombardement de Nîmes.
Et mon papa, il a couru se mettre à l'abri sous le pont du diable à Nîmes qui servait d'abri. Et la bombe est tombée et a éclaté sous le pont du diable et ils sont tous morts. Maman a cherché de la journée, mon papa. C'était... Elle l'a trouvé à l'hôpital. C'était... La bombe l'avait déshabillé. Et c'était le mort qu'on n'avait pas, sans papier, sans vêtements, qu'on n'avait pas réclamé. Voilà. Et donc voilà, il y a quelques temps après, ma maman l'a dit, et puis après, il faut vivre avec. Hein. Moi, j'étais au flingue, et la mort de mon papa, si tu veux, c'était aussi cette chose au début qui me paraissait un peu absurde. Mon papa qui était allé se mettre à l'abri en pensant à nous, et pour... alors il n'en avait pas envie de se faire le truc. Et il avait fui. Et je l'ai raconté à un ami, Jacques m'écrivait, il me disait, heureux papa qui a donné sa vie pour la vie. De mon papa, il a donné sa vie pour nous, mais aussi pour la liberté et pour les hommes. Parce que ces putains de nazis, il fallait les arrêter, ils allaient se replier à nouveau en Allemagne et continuer la guerre pendant 10 ans à cause de ces fous. Et il fallait les arrêter. Alors mon papa, il a donné sa vie. Et du coup, si tu veux, il y a un grand poids qui s'est levé de ma poitrine. Il m'a fallu toute ma vie, si tu veux. Il faut des fois toute une vie pour que les choses se dénouent. Et mon papa, eh bien, il a donné sa vie. C'était un petit saint, comme tout le monde, on est tous des petits saints. Il a donné sa vie. Voilà. Il y en a qui sont un peu plus saints que les autres, ils donnent leur vie. Pour les gens qui aiment et pour la liberté. Mon papa, il a donné sa vie à l'éternité.
C'était le Mac de la Rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.
C'est l'été sur Radio Aviva.
Yeah.
L'agenda, toutes les sorties et les loisirs dans l'Hérault.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre agenda. Voici les événements et les sorties à venir. Mercredi 6 août de 20h à 22h30, partez à la découverte des chauves-souris au bord du Lez. Une soirée insolite mêlant balade crépusculaire et rencontre avec un spécialiste pour mieux comprendre ces discrets mammifères nocturnes. Grâce à des capteurs acoustiques, leurs ultrasons deviennent audibles. Départ devant l'hôtel de ville de Montpellier, la réservation est conseillée sur montpellier-tourisme.fr dès 15 euros. Toujours le mercredi 6 août de 18h à 21h, vivez la dernière soirée des estivales aux arènes du Crèze. Ambiance sunset avec DJ set en plein air, pétanque entre amis, vins régionaux à consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, street food et boissons rafraîchissantes. Un cocktail estival parfait dans une atmosphère conviviale et musicale. L'entrée est libre, alors n'hésitez plus. Venez profiter de cette dernière soirée dans ce cadre unique, avec bonne humeur garantie, aux 6 places du pont du Trinca. Le Moco Panacée à Montpellier vous invite à découvrir la 5e essence, une exposition immersive de Jean-Marie Apriou, sculpteur visionnaire. Il façonne le verre, le bronze, l'argile ou encore la lave pour créer un univers peuplé de créatures hybrides, d'explorateurs cosmiques et de figures mythologiques. Entre alchimie, légende et science-fiction, ses œuvres interrogent notre lien au vivant et à l'univers. L'entrée du Moco est payante au tarif de 8 euros pour les adultes, gratuit pour les étudiants, alors n'hésitez pas à venir nombreux. À l'espace Saint-Ravi de Montpellier, le collectif La Piscine signe une exposition singulière intitulée « Don't Feed Alligators », visible jusqu'au 10 août. Quatre jeunes artistes, Assia Lapé, Fanny Monnier, Cheyenne Lullier et Pauline Paget-Yoberas, y explorent un monde marécageux et fictionnel entre sculpture, vidéo et performance. Leur œuvre interroge l'eau, le corps, l'imaginaire et les mythes à la croisée de l'organique et du symbolique. Tout un programme. Une exposition poétique en accès libre à découvrir. Place Saint-Ravi. Il est encore temps de profiter du rooftop du Corum, et ce jusqu'au 14 septembre. Vous avez de la marge, donc. Cet endroit emblématique de la salle des spectacles montpelliéraine vous accueille avec sa vue imprenable à 360 degrés sur la ville et sur le pic Saint-Loup. Au programme, apéro conviviaux avec modération, c'est dangereux pour la santé. Concerts, DJ set, projections, expositions et animations rythmeront vos soirées. L'accès est gratuit du mardi au dimanche de 18h à 1h. Culture, détente et good vibes seront au rendez-vous. Comme d'habitude, faites votre choix et bon divertissement.
C'est l'été sur Aviva.
Me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin. C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici, en douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace?
tout te dire ou bien me taire. Que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras.